Je voudrais d'abord, début de cet enseignement, donc, vous redire que la perspective de ce parcours, pendant toute cette année, ce sera d'apprendre de Dieu à aimer, en partant de la conviction que l'amour n'est pas d'abord une question de volonté, d'effort volontaire, disons, mais plutôt de sagesse. Et qu'il s'agit de savoir comment laisser l'amour naître en nous plutôt que de vouloir le créer soi-même. Que l'amour se reçoit en définitive. Nous avons vu par rapport à ça la question la dernière fois de la passivité dans la passion. Et je voudrais élargir un peu la perspective. Parce que quand j'ai parlé de passion, peut-être certains on pensait uniquement à la passion entre l'homme et la femme, mais si vous vous souvenez bien, j'en ai parlé en fait d'une manière générale, hein, comme étant l'archétype, la passion, c'est la première forme de l'amour, et d'un amour qui naît spontanément, Benoît XVI dit, qui s'impose même, qui s'impose à nous, qui naît spontanément. Nous allons essayer d'élargir la perspective de la passion en mettant pour la première fois Dieu en jeu. Où se place Dieu? Et avant de mettre Dieu en jeu, je voudrais faire appel à votre expérience. L'expérience des limites de l'union que réalise la passion humaine telle que le monde la connaît, telle que le monde la recherche. Les limites de l'union, les limites du bonheur que peut apporter la passion humaine. Je voudrais laisser parler Catherine.
C'est vrai que nous sommes tous touchés par le péché. Bien distribué, on y passe tous. Et finalement, notre amour est entaché par ça. Alors, de deux choses l'une, soit on se met à employer des phrases comme tu dis toujours ça, tu fais jamais ça, tu ne comprends jamais que, et toujours et jamais, ils ne font pas grandir notre façon d'aimer. Et très vite, on se rend compte qu'on est dans un cercle vicieux. Et finalement, le témoignage qu'on peut vous donner, c'est que ce qui nous conduit dans notre couple, c'est d'être, en fait, d'avoir une prière de couple. C'est-à-dire d'être l'un à côté de l'autre, devant le Seigneur. Ça permet déjà de ne pas être face à face, parce que face à face veut souvent dire agressivité, côte à côte, on regarde dans la même direction. Et en plus, quand on regarde dans la direction du Seigneur, il nous instruit et il nous montre comme il nous apprend à nous aimer. Il nous montre, lui, comme il aime notre conjoint. Et finalement, c'est nos fragilités, nos péchés deviennent finalement sont pris comme un obstacle à passer, une conversion à faire, et on s'aide à le faire ensemble. Et donc, c'est un amour qui libère et qui nous permet de grandir. Voilà.
Merci. Catherine a déjà un peu devancé ce que nous allons essayer de voir, en fait, c'est-à-dire comment aimer en Dieu et avec Dieu. Mais elle a en même temps très clairement dit les limites d'un face-à-face. Vous vous souvenez de la parole de Saint-Exupéry, aimer c'est ne pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Nous aurons bien des occasions de reméditer cette parole pleine de sagesse. Il y a des personnes qui sentent très tôt les limites du face-à-face. N'est-ce pas, Claire?
peux déjà passer la parole.
Par rapport à ces limites.
J'ai envie de t'écouter. Les limites du face-à-face, moi personnellement, oui, au bout de... J'étais très, très gâtée par mon mariage, très comblée, il n'y avait pas de problème. Et, mais rapidement, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais déçue. Pas par mon époux, ni par mes enfants, je ressentais depuis très petite vraiment une soif de Dieu, et j'étais insatisfaite tout en étant comblée humainement. Et une des souffrances que je ressentais très fort, c'est que j'étais insatisfaite et puis pas mon mari. Donc ça, c'est lui qui pourrait parler. Je ressentais une soif de quelque chose de plus. Et ça a été pendant des années une grosse discussion entre nous. Donc j'ai mieux de lui repasser la parole.
Tu veux parler maintenant ou tu te laisses le temps? Philippe se laisse le temps. Alors, pour essayer de comprendre comment on peut arriver à accepter les limites de la passion humaine en tant qu'énergumène, pour essayer de comprendre la place de Dieu, il est bon de réfléchir sur ce qu'est l'homme. Pour arriver à distinguer différents niveaux d'amour et d'union. Ce que je dis est tout simple en réalité, mais il est bon d'en reprendre conscience. Nous avons dit la dernière fois que l'attraction qui fait naître l'amour, l'attraction d'un bien, qui se fait connaître, qui se dévoile, et qui peut exercer sa puissance d'attraction sur moi. Ce bien peut être physique, et l'Écriture ne manque pas de montrer la puissance de la beauté physique, notamment la beauté physique de la femme. Il faut le dire, quand on en parle dans l'Écriture, c'est toujours par rapport à la femme. Et cette beauté physique, elle a évidemment un pouvoir propre d'attraction qui engendre ce qu'on pourrait appeler, qui fait naître ce qu'on pourrait appeler un amour physique, si je peux dire. En tout cas, qui rejoint l'instinct, sexuel, l'appétit au niveau physique. Je recherche le passage où il est dit, où Dieu recommande de ne pas regarder une femme belle. Ne promène pas ton regard dans les rues de la ville, détourne ton regard d'une jolie femme, ne t'arrête pas sur une beauté étrangère. Beaucoup ont été égarés par la beauté d'une femme et l'amour s'y enflamme comme un feu. Ce qu'on puisse dire, c'est que Dieu nous connaît. Ça, c'est dans l'Ecclésiastique, au chapitre 9, 7, 8. Les hommes peuvent noter, particulièrement. Ils sont invités à prendre au sérieux, hein. Le fait qu'il ne faut pas jouer avec l'attraction physique. Et cette attraction physique, elle est souvent, il faut bien dire, liée aussi à une attraction psychique. Alors là, les choses sont plus complexes, hein, mais l'attraction psychique, elle s'exerce en fonction d'un appétit, on peut dire. Un appétit qui serait, disons que c'est l'affectivité. L'affectivité, c'est là où on aura l'occasion d'en reparler, c'est que cette affectivité, cet appétit psychique, il est évidemment marqué de toutes parts par les blessures de la nature humaine. Il n'y a pas besoin ici de connaître beaucoup la psychologie pour le comprendre. Alors, il y a deux attractions qui sont évidentes dans l'expérience, c'est l'attraction physique et l'attraction psychique, disons affective, et toutes les deux donc font naître un amour qu'on peut appeler sensible. Quand il s'agit de l'homme et de la femme, cet amour peut être appelé l'éros, mais je vous invite à le prendre comme on parle Benoît XVI dans son encyclique, c'est-à-dire d'une manière très large. L'éros, on le vit dans toutes nos rencontres. L'éros, il traverse toute la vie humaine. À partir de cette attraction mystérieuse, comme dit Jean-Paul II, que l'homme et la femme exercent l'un sur l'autre, au niveau physique et psychique. L'éros donc tend vers l'union. Il y a des unions qui restent uniquement affectives, mais l'union affective appelle d'elle-même l'union physique. Donc nous avons en nous-mêmes une soif, une capacité d'union physique et affective. Et la plupart des personnes ne voient que ça. J'étais frappé en faisant le catéchisme aux enfants, quand je leur ai demandé quel était le sens de la vie. Certains, en CM1, n'ont trouvé d'autre chose à dire que de parler de sexualité. Reflet de la mentalité du monde. J'ai connu un enfant de CE2 disant qu'il avait perdu sa copine, et comme il avait perdu sa copine, il allait se suicider. Ouais. Donc tout ça pour vous rappeler que pour beaucoup, en dehors de cette union physique et affective, il n'y a pas de joie à attendre de la vie de ce monde. Eh bien, la question que nous nous posons, c'est est-ce qu'on peut attendre autre chose que cette union physique et affective qui fait vivre le monde? Et pour voir si nous pouvons attendre autre chose de cette vie, s'il y a une profondeur plus grande à attendre, il nous faut approfondir notre regard sur l'homme. Dans la Genèse, il nous est rappelé que Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. La glaise du sol, c'est notre corps que Dieu modèle dans le sein de notre mère, a modelé, et Dieu insuffle. Ça, c'est la création d'un principe de vie, un principe de vie qui en l'homme vient directement de Dieu. Dieu crée directement ce principe de vie. Ce principe de vie, c'est l'esprit, roi, le souffle en hébreu. L'homme est corps et esprit, matière et esprit. L'Église enseigne que la matière et l'esprit en l'homme ne forment qu'une seule, si vous voulez, l'esprit et la chair ne forment qu'une seule nature humaine, qui est complexe puisqu'elle est à la fois corporelle et spirituelle. Quand on dit esprit, on veut dire que l'homme est plus particulièrement par son esprit, il est d'une manière toute particulière créé à l'image de Dieu qui est esprit. Quand on dit âme, on rappelle que l'esprit anime le corps. Mais en réalité, l'âme est précisément l'esprit lui-même. L'âme est un esprit. un esprit qui donc a cette fonction animatrice pour le corps, mais un esprit qui est aussi capable de vivre séparément du corps. Dans l'écriture, les défunts, on les appelle les esprits. Des esprits bienheureux quand ils sont au ciel. Encore dans la messe hier, juste avant le Sanctus, je disais qu'avec les saints, avec les anges et les esprits bienheureux, nous chantons la gloire de Dieu. Et rappelez-vous aussi, quand Jésus apparaît à ses apôtres, Jésus leur dit, non, n'ayez pas peur, je ne suis pas un esprit, mais touchez mon corps, voyez que j'ai bien un corps, je ne suis pas un esprit, je ne suis pas un défunt qui se manifeste. Donc, l'esprit, lui, est immortel. Et quand on dit donc, il y a une distinction que l'on peut faire dans l'esprit et l'âme. L'esprit, quand on dit esprit, on veut signifier que l'homme, comme dit le catéchisme, est ordonné dès sa création à sa fin surnaturelle. C'est-à-dire, l'esprit, c'est ce qui en nous est capax dei, est capable de Dieu. Parce que Dieu lui-même est esprit. C'est en même temps ce qu'il y a de plus intime en nous. L'esprit, il est créé directement par Dieu. L'Église nous invite, nous appelle de plus en plus fortement à penser qu'il est créé dès la conception. Et cet esprit, il vit de quoi? Il fait vivre le corps. Bon, il anime le corps, mais lui-même, il se nourrit de quoi? Il est fait pour quoi? Est-ce qu'il y a une union spirituelle? Est-ce qu'il y a la possibilité d'une passion spirituelle? Notre corps est attiré, notre psychisme, on y reviendra, est attiré, on l'a vu, l'affectivité. Mais l'esprit lui-même, il est attiré par quoi? La révélation nous dit qu'il est fait pour Dieu. Mais précisons que l'esprit, c'est comme un œil en même temps. Certains parlent de l'œil de l'âme. Là, il y a l'œil du corps et l'œil de l'âme. L'esprit, c'est aussi la capacité de voir avec... C'est une intelligence qui voit, c'est un œil qui voit. Cet esprit, il est plus précisément fait pour voir Dieu. Je suis créé pour m'unir à Dieu en le connaissant. Nous avons vu que l'homme vit de relations. Le corps vit de relations. Nous avons un besoin de toucher. Même en dehors de la question de la relation sexuelle, c'est étonnant de voir le besoin que nous avons de toucher quand on rencontre un ami, c'est plus fort que nous, besoin de lui mettre la main sur l'épaule, de le tenir, un contact. Au niveau psychique, il y a aussi un besoin d'être unis psychiquement, de sentir qu'on arrive à parler ensemble, qu'on sent, qu'on communique aux mêmes choses. Eh bien, l'esprit, il a aussi besoin de contact. Le premier contact que l'esprit recherche, c'est le contact avec Dieu. Enfin, qu'il recherche, pour lequel il est fait. Vous allez me dire, mais cet esprit, si la personne humaine est un esprit qui vit dans la chair, un esprit incarné, si je suis un esprit incarné, et pas simplement un être physique et psychique, si je n'ai pas simplement une personnalité psychologique, mais que j'ai une âme spirituelle, créée particulièrement à l'image de Dieu, comment se fait-il que je ne ressente pas plus la soif de Dieu? Comment se fait-il que je passe ma vie sur Terre à rechercher simplement, à vivre simplement des passions physiques et affectives, et que je ne sois pas, que mon esprit ne soit pas passionné par Dieu? Parce que ici, nous sommes de l'ordre, dans l'ordre de la passion. Nous sommes dans l'ordre, en réalité, de la passion la plus grande possible. Écoutez Benoît XVI. Le saint est celui qui se laisse tellement fasciner par la beauté de Dieu et par sa vérité parfaite qu'il en est progressivement transformé. C'est ça la passion. Passion amoureuse pour Dieu. Le saint, c'est celui qui laisse Dieu l'attirer jusqu'à une fascination qui produit, pour reprendre le langage de Benoît XVI, la véritable extase. Cette véritable extase qui sera notre vie éternelle au ciel, hein, mais qui est appelée à être déjà sur terre. J'allais dire le fond de notre vie, notre vie la plus profonde, la vie proprement de l'âme. Vous allez me dire, mais pourquoi les hommes ne sont-ils pas plus passionnés par Dieu donc? Il y a une grosse question, c'est que pour être passionné par une réalité belle et bonne, il faut qu'il y ait une première expérience de cette réalité, puisqu'il faut que l'attraction puisse s'exercer. Et Benoît XVI pose la question avec beaucoup de vérité, mais nous y reviendrons, comment peut-on aimer un Dieu qu'on ne voit pas, d'un amour de passion? Comment je peux me laisser fasciner par sa beauté alors que je n'ai pas d'expérience? Est-ce que je n'ai vraiment pas d'expérience? C'est ça la question. Mais en tout cas, que cette beauté n'est pas évidente, ça c'est sûr, évidente aux yeux de mon esprit. Avant de répondre à cette question, je reviens quand même sur le fait que notre esprit, qu'il le veuille ou non, qu'il en ait conscience ou non, qu'il ressente ou non cette soif, il est créé, j'allais dire malgré lui, absolument créé pour Dieu. Les théologiens disent que la vie du corps c'est l'âme qui anime le corps, mais la vie de l'âme c'est Dieu. Et vous avez tous entendu l'expression de péché mortel. Péché mortel, c'est le péché qui sépare l'âme de Dieu, et donc lui enlève la vie véritable. Et cette prédestination à Dieu de notre esprit, cette prédestination que nous ne ressentons pas suffisamment en tout cas, elle se révèle peut-être de la manière plus forte dans la doctrine de l'Église, l'enseignement de l'Église sur l'enfer. De quoi souffrent les esprits de ceux qui se sont, dans un choix irrévocable, coupés de Dieu et qui vivent dans un état de haine de Dieu? De quoi souffrent-ils? Vous n'avez jamais posé la question? La peine du damne, c'est quoi? Ben, ils souffrent d'être séparés de Dieu. Ils souffrent de ne pas voir Dieu. Habituellement, quand on déteste quelqu'un, on souhaite tout sauf le voir. Mais l'esprit de l'homme est tellement fait pour Dieu que même s'il déteste Dieu, il souffre de ne pas voir la beauté de toutes les beautés. La seule beauté, la seule vérité, la seule bonté qui puisse réellement rassasier, comme dit saint Thomas d'Aquin, Dieu seul rassasie. Qu'est-ce qui fait que sur Terre, nous ne ressentons pas tout ça? Qu'est-ce qui fait que nous passons à côté de la passion la plus grande, le plus souvent? Il y a le problème d'un Dieu qui se révèle plus ou moins, on va dire, qui est plus ou moins accessible, mais là-dessus on y reviendra. La question de la manière dont Dieu se fait connaître pour nous attirer à lui. Mais il y a aussi le problème de notre esprit qui, le plus souvent, est comme sous anesthésie, la somnolence spirituelle. Notre esprit qui dort. Notre âme qui est encombrée par quantité d'autres choses. Écoutez, si vous le voulez, écoutez à ce sujet Benoît XVI dans son commentaire de la parabole dans Saint-Luc, des invités qui se dérobent. Vous savez, le maître invite des invités à un festin et il ne reçoit que des refus de la part des premiers invités dans la parabole. Et pourquoi? Parce qu'ils sont occupés. Ils ont d'autres choses à faire. Ils ont d'autres choses à faire. Certains sont occupés par leur chant. D'autres sont occupés par leur portable. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est une glose tardive. D'autres sont occupés parce qu'ils ont des bœufs à essayer. Hein? Oui, j'ai 5 paires de bœufs, je pars les essayer. L'idolâtrie du travail. Et l'autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis venir. Et Benoît XVI pose la question, comment est-il possible qu'un homme dise non à ce qu'il y a de plus grand, qu'il n'ait pas le temps pour ce qui est plus important ? Répond, en réalité, les hommes n'ont jamais fait l'expérience de Dieu, ils n'ont jamais goûté Dieu, ils n'ont jamais ressenti combien il est délicieux d'être touché par Dieu. Il leur manque ce contact et à travers cela, le goût de Dieu. Nous aimerions, voyez, dans ce parcours, nous aimerions essentiellement voir comment goûter la joie du mariage en même temps que la joie de Dieu. Pouvoir unir deux passions. La passion pour la créature et la passion pour le créateur. Ne pas vivre les deux en opposition, ne pas vivre les deux en parallèle, même, mais vivre les deux ensemble. Mais ça suppose que, ici on pose les fondamentaux, ça suppose qu'on soit bien d'accord que nous ne sommes pas des êtres physiques et psychiques simplement, nous n'avons pas qu'une vie affective. Nous avons une âme spirituelle qui, en réalité, même si elle n'en a pas conscience, reste quelque part avec une forme de tension vers une autre chose qu'elle ne connaît pas, mais qui fait qu'elle ne sera jamais entièrement comblée de ce que le monde propose. Saint Paul en parle comme d'un gémissement intérieur. C'est le gémissement de l'esprit. Alors, ce gémissement, Anne-Claire a témoigné qu'elle l'a ressenti très tôt. Il y a des âmes qui sont plus sensibles, spontanément, disons, une grâce de sentir que quelque chose, il y a le divin qui les attire, quoi. Je ne sais pas comment tu dirais autrement, Anne-Claire. C'est un pressentiment.
Je trouve que le terme attraction, c'est ça. L'attraction ne vient pas de nous, on est attiré, quelque chose nous attire, donc on le ressent, on n'est pas. Ah voilà, moi, ça ne vient pas de moi. J'ai toujours senti cette attraction, tout en étant dans l'état de chercher, parce que je ne voyais pas, c'est pas parce que je ressentais l'attraction que tout était réglé, quoi. Je me dis, j'ai pataugé et cherché pendant des années pour essayer de comprendre ce que c'était que cette attirance, cette insatisfaction. J'ai cherché pendant des années. J'ai cassé les pieds à Philippe là-dessus.
Philippe, tu veux...
Comment ça s'est passé en face ? Moi, j'ai un cheminement assez différent. La grâce du mariage, pour moi, ça a été d'avoir un aiguillon à côté de moi. Parce que même si je suis tombé dans un bénitier tout petit, milieu tout à fait, je veux dire, pratiquant, enfin... tout bien comme il faut, quoi. En gros, moi, je n'avais pas d'attirance. Je n'avais pas d'attirance, comme vient d'expliquer Anne-Claire, et donc j'ai plutôt été dans quelque chose qui se situe entre le devoir et la fidélité. Bon. C'est-à-dire que, bon, voilà, je ne sais pas si c'était ma formation militaire qui m'a poussé dans ce sens-là, mais voilà, j'ai plutôt posé des actes qui étaient ce que je savais qu'il était bien de faire. Et en même temps, avec mon aiguillon à côté de moi, fur et à mesure que j'avançais dans le temps, plus j'avançais, plus elle me cassait les pieds, et plus en même temps, j'ai souvent utilisé l'image avec Anne-Claire pour quand elle me cassait les pieds. C'est bien gentil, mais moi, j'ai l'impression d'être dans une bouteille, dans un bocal. C'est-à-dire que je vois qu'il y a de la lumière, je pressens qu'il y a de la lumière, peut-être que mon pressentiment vaut, en l'occurrence, mais en même temps, je sens qu'il y a une espèce de paroi là, qui m'empêche de passer tout le temps. Alors bon, c'est bien joli, la lumière elle est là, mais moi je cogne quoi. Bon. Voilà, et donc ça a été pendant de longues années comme ça, donc jusqu'à il n'y a pas longtemps, pas si longtemps que ça, même si quelque part, dans la bouteille, je ne sais pas si l'épaisseur, ou s'il y avait des déchirures, mais je dirais presque que c'est depuis la dernière séance que j'ai réfléchi quand même. Vous voyez que je suis le cycle entre vous. Et parce que je me suis dit, au fond, cette bouteille, qu'est-ce que c'est ? Et je crois qu'au fond, cette bouteille, c'était moi-même. Et c'est très subtil, parce qu'en fait, cette bouteille, je me la suis fait transparente pour pas qu'elle se voit.
Il est poète, ton mari.
Mais j'ai entendu dire ça il y a deux jours. Je me dis, tiens, parce que j'apprends. C'est quand il témoigne que j'apprends les choses. Donc il y a deux jours, j'ai entendu qu'il disait, la bouteille, c'est moi. Et parce que ça fait des années qu'on en parle de la bouteille. Hein. En disant, bon, comment on va la casser ? Parce que ras-le-bol, quoi. Et en fait, il y a deux jours, j'ai entendu qu'il disait ça. Et cet après-midi, en lisant Quentin Lamessa, j'ai trouvé un chapitre sur le sujet. Genre, je me suis dit, bon, ça serait...
J'ai eu le droit dans la voiture ce soir.
Dans la voiture ce soir, j'ai dit, j'ai trouvé. Et je vous conseille, Quentin Lamessa... Oui, Pelletier aussi, mais quand on avait ça.
Donc, cette attraction de Dieu, elle est aussi un long chemin, ça va de soi. Je voudrais préciser, revenir sur la question de l'union à Dieu. En repartant de la parole de saint Paul, qui dit que l'homme qui s'unit à la femme n'est avec elle qu'un seul corps, qu'une seule chair, mais celui qui s'unit au Seigneur n'est avec lui qu'un seul esprit. C'est 1 Corinthiens 6, 16, 17. Vous aurez les références. Alors, celui qui s'unit au Seigneur n'est avec lui qu'un seul esprit. Ça semble... concrètement, au-delà de notre expérience humaine, de pouvoir dire qu'on fait qu'un seul esprit avec Dieu. Mais en réalité, un seul esprit qui est donc analogue à une seule chair du côté du couple, un seul esprit, il est tout simplement le fait qu'il est proportionné à la connaissance de Dieu, c'est-à-dire en réalité c'est la fine pointe de mon âme qui est en contact avec Dieu, au-delà de ce que je peux ressentir sensiblement. Ce contact, il peut être encore une fois encore très ténu. Il peut même le plus souvent nous échapper. Mais ce contact est ce qui fait que je communie vraiment à la vie divine, à la vie de Dieu. Et que cette vie, elle va passer, elle va passer progressivement dans tout mon être à l'image, vous savez, de la comparaison que Jésus fait du royaume de Dieu avec le levain. Le levain, tout petit, mais qui fait lever toute la pâte. Et je dis simplement que ce contact de notre esprit avec Dieu, qui se fait par mode d'une certaine connaissance qu'on appelle en fait la contemplation, c'est ça. C'est les yeux de l'esprit qui perçoivent quelque chose du mystère de Dieu. Ce contact qui se fait dans le plus intime de l'âme, dans l'esprit, ce contact en réalité, non seulement nous en sommes tous capables, mais nous sommes absolument tous faits pour vivre de cela. Ça prend simplement des expressions et des formes différentes. Les femmes vivent habituellement ces choses-là d'une manière, je dirais, quelquefois plus sensiblement amoureuse. Les hommes le vivent souvent d'une manière, sous un mode un peu plus, comment dire, sobre. Mais en réalité, c'est la même union qui se vit en profondeur. Une union qu'on apprend à reconnaître et à cultiver. La question, au fond, c'est de savoir comment cette union qui peut se vivre donc dans l'intime de l'art peut de fait rejoindre l'union psychique et physique. En partant de la base de l'unité de l'homme, il n'est pas possible que si l'esprit est vivifié, que si l'esprit, touche quelque chose de Dieu et se nourrit de quelque chose de Dieu, il n'est pas possible que ça ne rejaillisse pas sur le psychisme et sur le corps.
Je trouve que... dans le discours que faisait lui, là, je pensais en même temps qu'on pourrait parler de la sexualité de la même façon. De la même façon qu'on parle de cette union des esprits. Et pour nous, enfin dans notre parcours avec Philippe, la sexualité nous a énormément appris pour la prière. Et inversement, la prière et l'union à Dieu nous ont appris pour la sexualité. Et j'ai toujours été, moi, profondément marquée par l'histoire de Toby et Sarah, de cette Marie qui meurt. Et quand ils se mettent à genoux pour prier, eh bien, la sexualité n'est plus mortifère. Et nous, on a énormément découvert sur l'union à Dieu à travers la sexualité et dans l'autre sens. Et je me dis qu'il y a quand même un lien très fort entre l'Esprit Saint et... Enfin, c'est super de prier l'Esprit Saint à ce moment-là, pour vraiment être éclairé sur ce lien. On aura l'occasion d'en reparler, mais c'est vraiment extraordinaire à découvrir ça.
Par l'Emmanuel, on dit je confirme.
C'est bien. Pour voir ce que peut signifier le renouvellement de la vie sexuelle et affective par la vie divine, par la vie de Dieu en nous, c'est évident qu'il vous fera revenir souvent sur l'unité de la personne humaine. Je suis parti de la Genèse qui montre que l'homme est un souffle, un roi, un esprit, dans la chair, dans la glaise, et qui donc anime cette glaise. Et entre le souffle roi, l'esprit, plus particulièrement créé à l'image de Dieu, et le corps, donc c'est il y a place pour ce qu'on appelle le psychisme, mais qui sont comme des facultés de notre esprit qui lui permettent précisément de qui font le lien avec le corps. L'esprit, le psychisme et le corps. Mais fondamentalement, il faut garder conscience que même si notre vie psychique, elle prend quelque part plus de place que notre vie spirituelle au sens où elle est sensible et puis en ressentant toutes ces émotions, toutes ces passions sensibles, en définitive, ce qui prime dans notre vie, c'est l'esprit. Je vous donne un exemple tout simple. Un patient qui, je dirais, irait voir un psychologue pour faire un travail sur son psychisme, mais qui le ferait, par exemple, étant poussé par quelqu'un de sa famille, mais qui, au fond de lui-même, dans son esprit, dans sa liberté profonde, ne veut pas le faire, ou pour une raison cachée, mystérieuse, ne veut pas guérir, en fait, ben, il ne se passe rien. On pourrait donner bien d'autres exemples sur le fait que l'esprit, là où se décide vraiment notre liberté profonde, en définitive, c'est lui qui prime sur tout le reste. Donc, nous essaierons de voir comment peut s'unifier la vie, s'unifier notre humanité, en reconnaissant le primat de l'esprit et donc de la vie spirituelle, même si cette vie spirituelle, elle est souvent comme une vie cachée souterraine. Comme une eau qui coule doucement, qui jaillit d'une source insaisissable, mais qui est appelée en même temps à pénétrer dans toute notre humanité en profondeur. Y compris, donc, jusqu'à transformer la vie sexuelle elle-même. Claire, tu voulais...
Je pense qu'on approfondira plus tard sur ça, parce qu'on ne peut pas en parler en deux minutes comme ça.
C'était juste pour leur donner l'eau à la bouche.
Ah, vous avez vraiment besoin de ça.
Bon. J'insiste pas.
Pas raisonnable.
Je ne suis pas raisonnable. Alors... comment décrire notre situation sur cette terre? C'est clair que nous ne serons jamais entièrement unis à Dieu sur cette terre parce que nous ne pouvons pas le voir encore dans ce que saint Paul appelle la claire vision. Nous ne sommes pas dans le face-à-face. Ce qui s'impose à nous, c'est un besoin d'union physique et psychique. Il est le besoin le plus sensible. Et l'Église le reconnaît. La vocation au mariage est inscrite dans la nature même de l'homme et de la femme. Et le Siracide, il renchérit au chapitre 36, verset 25, « Sans une femme, l'homme gémit et va à la dérive. » Vous voyez, réalisme de Dieu, qui est celui qui nous a créés. Et donc, en même temps, il reste comme une insatisfaction, comme disait Anne-Claire, et un gémissement de l'âme que nous entendons, que nous percevons plus ou moins, et la possibilité de vivre déjà sur cette terre une vraie connaissance de Dieu, une vraie union à Dieu, que Jésus exprime ainsi quand il dit dans l'Évangile « Le royaume de Dieu est tout proche. » Cette union à Dieu, il ne faut pas la chercher loin. Pourquoi le royaume de Dieu est tout proche? Parce que, nous y reviendrons, parce que Dieu lui-même a fait le premier pas pour s'unir à nous dans le mystère de l'incarnation. Et dans l'histoire de l'humanité, la vie religieuse, avant la venue du Christ, dans le judaïsme, il n'y avait pas de vie religieuse. Ce n'était pas pensable de vivre sans sa moitié. Et à partir de l'incarnation du Verbe, commence la vie religieuse. C'est-à-dire, Dieu s'est fait si proche, en s'unissant d'une certaine manière à chacun de nous, par son incarnation, qu'il est possible déjà de vivre de cette vie. Et si je suis prêtre célibataire et que je fais cet enseignement, c'est précisément pour pouvoir témoigner de cela d'abord. Et vous avez besoin d'entendre ce témoignage. J'aurais souhaité que dans l'équipe, il y ait une sœur consacrée. Mais de toute façon, il y a deux personnes qui sont célibataires et qui vivent ce célibat dans un esprit de consécration à Dieu. Parce que vous, les couples, vous avez besoin d'entendre non seulement ce langage-là, mais ce témoignage-là. Pour pouvoir prendre plus au sérieux cet appel à rechercher d'abord le royaume de Dieu, à rechercher d'abord à répondre, je dirais, à cette soif spirituelle inscrite en vous, et de croire qu'à partir de là, les autres unions, les autres soifs vont pouvoir s'harmoniser, et s'épanouir d'une manière que le monde ne connaît pas, parce que à mesure où il se ferme à ce mystère.
Je trouve qu'il faut que tu expliques bien comment le prêtre, par exemple, ou la sœur consacrée, est comblé par sa relation à Dieu, et que ce sont les signes que vous êtes pour nous, les signes du fait que la relation à Dieu peut combler. Je trouve que c'est par rapport au mariage des prêtres, à tout ça qu'on entend tout le temps, je me dis que des prêtres nous disent qu'ils sont comblés par l'union à Dieu et qu'ils sont les signes de cela. Je trouve que c'est, enfin, pour nous les couples, je trouve ça très fort. Et une fois, Louis m'avait dit, et nous, les couples, on est pour eux le signe de la fidélité de Dieu. Alors, je l'ai peut-être mal compris, mais il me corrigera de toute façon. Mais je trouve que c'est très fort par rapport à tout ce qu'on entend autour de nous à notre époque, de vraiment comprendre que le prêtre, le célibat des prêtres, c'est pour nous montrer qu'on peut être comblé par l'union à Dieu. Et c'est super important à notre époque matérialiste.
Oui, on peut ressentir qu'au fond de notre cœur et de notre esprit, il y a une joie très, très pure qui vient de Dieu lui-même. Entre dans la joie de ton maître, tout en reconnaissant que l'homme et la femme sont naturellement faits pour le mariage, c'est-à-dire ça n'empêche pas d'éprouver cette attraction. Et de percevoir que le fait de ne pas pouvoir vivre l'union du mariage reste une pauvreté, et on peut dire une certaine souffrance, mais quand les choses sont vécues dans l'expérience de cette union plus grande encore qu'est l'union à Dieu, cette souffrance d'une solitude affective et physique peut être assumée. Mais ce qui suppose, et c'est ça la difficulté pour nous prêtres, de vivre une relation effectivement amoureuse à Dieu. Sinon, comme dit Benoît XVI, on peut tout faire pour Dieu sans jamais rencontrer Dieu. Mais à un moment, on se dessèche, forcément, puisqu'on est dans le devoir, dans le vouloir faire, et c'est à ce moment-là qu'on finit par se rabattre sur d'autres choses, et c'est ça qui est souvent occasion de scandale pour les fidèles.